Alors, presque 10 ans d'existence pour le groupe, 2007, parce que j'ai vu.
C'est vrai.
Et certains de nos lecteurs vous connaissent peut-être pas, parce que vous pouvez présenter le groupe, voilà, pour sa jeunesse.
Ouais, bah en fait, donc Obsol Fulian, donc c'est on a un groupe de power folk metal. Nous, on parle de power folk metal, c'est-à-dire qu'on mélange justement tout le côté power, mélodique et speed, avec justement pas mal d'influences celtiques et folk. Que ce soit dans les compositions des morceaux ou l'apport d'instruments comme la flûte, la cornemuse, ce genre de choses. Donc le groupe, il est né, pour faire un historique rapide, le groupe il est né en 2007. On a sorti un EP 5 titres en 2010, un album éponyme en 2012. Et là on sort Burning Skyfall, le deuxième album, on l'a sorti en janvier 2016.
D'accord. Effectivement, on a dit 2012, l'album éponyme. Et donc il a fallu 4 ans pour sortir de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé, enfin, voilà, cette période-là de transition, entre guillemets, qui a été les événements marquants pour le groupe?
Il n'y a pas eu d'événement particulièrement marquant. On a mis un an en fait avant de se remettre vraiment à travailler sur des nouveautés.
Prendre le temps d'écrire les morceaux.
Ouais, c'est ça, le temps
de les retravailler. Et puis...
Le temps de. Une fois que le premier album est passé. Ouais, on a vraiment laissé un an le temps de laisser reposer les choses. Après, on a commencé à travailler sur les nouveaux morceaux. Puis on a pas mal tourné. Puis il n'y a pas eu de gros événements. Ça a vraiment été la continuité du premier.
Et pourtant, il a fallu presque 4 ans.
Ouais, mais ça a été assez long en fait. On a été assez long, malgré tout en fait. La sortie du premier album, du coup, après il y a quand même la pression de faire un deuxième album, ce qui est plus compliqué. C'est-à-dire qu'un premier album, il n'y a aucune attente, on fait ce qu'on veut, et puis de toute manière, on est complètement libre. Le deuxième album, il y a une certaine attente, il y a les questionnements qui vont avec. Donc il a fallu un an vraiment pour qu'on soit prêt à enchaîner l'histoire. On a perdu un peu de temps là-dessus. Puis après le temps, voilà, de peaufiner les morceaux, on a plus travaillé, que ce soit personnellement, que ce soit en groupe.
Et là, vous êtes mis une pression particulière, ou disons, il fallait qu'on fasse
tout plus? Je pense pas qu'on se met une pression.
Pression, mais c'est au moment de composer, du coup, il y a des questions qui se posent, il y a tout ça.
Comment faire évoluer la musique?
Ouais, comment faire évoluer
sortir du style qu'on faisait.
Et voilà, il a fallu vraiment un an pour qu'on soit prêt à recomposer.
D'accord. Alors moi, je trouve si je prends la période hippie premier album et premier album deuxième album, il y a un truc qui me semble beaucoup changé, c'est que le groupe est stable.
Mais carrément.
Alors que sur la période jusqu'à 2012, ça. Tous les potes ont changé sauf toi, qui a créé le projet. Enfin, ça y est, à 4, il y a le. Ça permet enfin d'avancer.
Ouais. Et on a quand même mis 4 ans pour sortir un album.
Voilà, donc qu'est-ce que ça fait ça?
On n'a même pas cette excuse. Non, c'est vraiment. Ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que du coup, maintenant, on s'organise dans le groupe, tout se fait vraiment.
C'est vrai qu'à l'époque, on était tous plus ou moins en études. Donc forcément, quand le guitariste est parti, c'était pour ses études. La question du batteur, c'était autre chose, mais voilà, forcément le line-up a un peu changé puisque du coup on avait chacun nos horizons, chacun professionnellement avait des envies différentes, donc le guitariste ne peut pas rester et forcément on a dû s'adapter à ça, donc le groupe a évolué sur ce point-là. Maintenant qu'on est tous là pour faire de la musique, on essaye de rester ensemble et pour l'instant ça se passe bien.
D'accord. Je vais faire appel à votre esprit de synthèse. Si justement toute la période Hope for Freedom, c'est-à-dire l'enregistrement donc, du premier album, la compo, l'enregistrement, les concerts liés à ça, voilà, toute cette période-là de quelques années, donc s'il y avait un souvenir ou un élément en particulier qui remontait à la place de cette période-là, c'est quoi?
Du premier album?
Ouais.
Le concert de sortie.
La release party?
Ouais. C'est-à-dire que ce soit pour le premier ou le deuxième, en fait, on a fait les deux à l'Arcade, donc à Notre-Dame de Gravenchon, entre Le Havre et Rouen, vu qu'on est de là-bas, on est de Normandie.
Ouais.
Et en fait, c'est vraiment un lieu qu'on a toujours fréquenté depuis qu'on est ado, nos premières répètes avec nos premiers groupes, machin.
Les premiers concerts qu'on a vus aussi.
Ouais, c'est ça. Du coup, on avait vraiment carte blanche pour notre sortie d'album, donc que ce soit sur la durée de jeu, que ce soit sur ce qu'on voulait faire. Donc on a eu, la chance de pouvoir faire de pouvoir avoir des projecteurs de flammes, de pouvoir, voilà, ça a vraiment été une super expérience. Et du coup, pour la première fois, d'avoir une soirée entièrement pour nous, les gens venaient vraiment pour nous, c'était vraiment les gens venaient chercher leur album, les gens. Donc ça a vraiment été un super souvenir, mais ça l'est encore.
D'accord. Finalement, si vous aviez à présenter un peu le groupe ou donner une idée, bon, les gens peuvent aller sur YouTube, il y a quoi faire, mais donner une idée de, voilà, du son au Freedom, peut-être par ses principales influences, les groupes qui vous ont marqué et qui, d'une façon ou d'une autre, nourrissent votre son.
Bah. Ça va être un mélange de plein de choses. Il y a le côté power vraiment de d'un Halloween, d'un Hammerfall, d'un Gamma Ray. Il y a le côté épique d'un Rhapsody. Il y a le côté musique de film du Seigneur des Anneaux. Il y a le côté folk d'un Corpic Lani. Mais c'est vraiment un mélange un peu de tout ça. C'est pas, ça a jamais été le but de faire comme tel groupe. C'est vraiment de rassembler ces différents éléments et de les mettre à notre sauce, quoi.
D'accord. Autre élément assez, autre grande différence avec le premier album, autant le premier était une autoprod, autant en termes de sortie, autant là c'est chez Brennus.
Le premier était aussi chez Brennus.
Ah, j'ai raté cet aspect-là.
Alors on a signé chez Brennus deux mois après la sortie du premier.
D'accord.
Donc, c'est juste pour la distribution. Donc du coup cet album-là est aussi distribué par Brennus.
Ouais.
Après ça reste de l'autoprod pour tout ce qui est enregistrement, production.
Donc le traitement pour être d'abord le même, vous fournissez un produit fini et distribuez.
Exactement.
D'accord. Avec surtout sur le marché français, on voit pas mal d'autoprod avec, si possible, un contrat distri. Je suppose que chaque fois, sur un premier album, on a fait ses premiers pas, on a une carte de visite, on démarche. Vous avez démarché ou comment ça se passe,
la
vie quotidienne du groupe qui fait ce qu'il peut pour essayer d'avancer.
Ouais, c'est ça, pour trouver des concerts, pour les labels.
Vous arrosez tous les gros labels européens.
C'est ce qu'on a fait. On a dû envoyer une centaine de CD promo pour le premier album un peu partout, que ce soit en France, aux États-Unis, en Allemagne.
C'est ça. Et Brennus, lui, a été tout de suite intéressé, donc du coup on a vraiment foncé,
chez Brennus.
Foncé avec lui, quoi.
D'accord.
On avait déjà un peu de contact avec lui par rapport à l'EP, mais l'industrie du disque étant ce qu'elle est, les EP c'est moins distribué, on va dire. Donc quand on a sorti Absorption, bah du coup.
Et donc à votre niveau tout à fait respectable, c'est un vrai plus d'avoir un distri comme Brennus par rapport à, je sais pas, la diffusion d'avant direct sur le site ou enfin, je sais pas, enfin.
Le problème c'est qu'il aurait fallu qu'on ait un site pour justement faire la diffusion, enfin le vendre nous-mêmes.
On n'a pas de site internet, c'est en projet, mais c'est pas encore quelque chose qu'on a mis vraiment.
C'est il faut les moyens pour le faire pour l'instant.
Est-ce que Brennus il presse?
Non,
c'est vous aussi.
Ouais.
Vous leur fournissez les cartons de CD, d'accord. Donc oui, après c'est juste
la distrib.
Ouais, d'accord.
Et ça nous permet du coup d'être sur tous les Spotify, toutes les plateformes d'écoute dématérialisées, toutes les plateformes de vente.
Et par exemple, vous avez vu nettement la différence pour vous pour la diffusion de musique entre l'EP et l'album. Et à un moment, Brennus est rentré dans le jeu.
Ah oui, ça c'est clair. Bah, autant là-dessus que par rapport à l'évolution du groupe. C'est-à-dire que l'EP, on n'en a pas vendu beaucoup, je crois. Je sais même plus à combien on l'avait pressé, mais on n'en a pas fait beaucoup. Que le premier album, c'est le plus vendu.
Et est-ce que, alors sans dévoiler de secret industriel, mais on entend parler, voilà, certains labels, ils disent oui, on peut vous le prendre, mais il faut préacheter un certain nombre d'exemplaires, et donc finalement l'un dans l'autre on a l'impression qu'on était un peu enfumé dans la largeur. Vous avez reçu des propositions mais un peu bizarres, on se dit oh là là, c'est pas une bonne idée, même si c'est un label pseudo-américain.
En fait on a beaucoup démarché, enfin envoyé plein de CD un peu partout et on n'a pas forcément eu beaucoup de réponses.
C'est comme quand on cherche du boulot, quoi. On envoie
un peu ça,
sans CD, mais il y a deux réponses, quoi.
Et pour le coup je crois même pas qu'on ait eu vraiment de propositions de nous prendre comme ça.
Et Brennus lui par contre était très enfin ouais, il n'y avait pas de conditions particulières parce que ça lui plaisait, donc on est parti chez lui.
D'accord. Alors qu'est-ce en général pouvez-nous dire des sessions d'enregistrement de l'album, et puis est-ce que vous avez modifié votre façon de travailler par rapport au premier?
Très peu. Non, grossièrement c'est vraiment la même méthode.
On a plus travaillé.
C'est ça. Sauf qu'on a pris tous les éléments et on a essayé de les pousser. Le seul vrai changement peut-être c'est du coup là tout ce qui est composition à fond, c'est vraiment que nous, c'est-à-dire l'écriture des chœurs et des orchestrations. Avant c'était les gars qui nous avaient enregistrés qui l'avaient fait, là c'est vraiment nous qui nous en sommes occupés. Mais sinon on a vraiment fait de la même manière, ça a vraiment été la même méthode, c'est-à-dire que tout est déjà calé avant. Là on a fait un pré-enregistrement, histoire de...
Tout était maquetté.
ce qui nous permet en fait, si on se laisse peu de place à l'improvisation en studio, c'est justement que ça nous permet de grossir et de faire plus de choses en fait. C'est-à-dire que chaque mélodie de guitare peut être doublée, triplée, quadruplée. Et si on veut faire et avoir le temps en fait en 2-3 semaines de tout enregistrer, on a très peu de temps pour réfléchir. Donc toute la réflexion se fait avant et quand on arrive en studio,
il n'y a rien à changer.
On fait au plus vite et au plus efficace.
D'accord. Et donc quel est le process normal de naissance d'une chanson pour Enter Freedom?
Alors en fait ce qui se passe c'est que on compose pas du tout ensemble, la composition de base se fait vraiment individuellement. C'est-à-dire qu'on va composer les morceaux chez nous. C'est-à-dire que du coup, là, Thibaut, il en a composé deux sur celui-là. La plupart du reste pour moi, c'est que du coup, on va composer un morceau seul chez soi, avec une première version, complète. C'est-à-dire que la composition d'un morceau, c'est-à-dire que quand je vais composer un morceau, ça va aller de la mélodie de chant jusqu'à la batterie, la basse.
C'est pas juste un squelette, c'est un truc très construit.
Déjà. Il y a déjà une première version très construite. À partir de là, on va travailler chacun de notre côté le morceau, on va faire une première version entière en groupe. Et à partir de là, toutes les discussions de groupe rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on adapte tout au bout de chacun et on avance et on finit le morceau ensemble.
D'accord. Et donc là sur Burning Skyfall, il y a 10 titres, enfin une intro et 9 compos.
Ouais.
Vous composez beaucoup, vous aviez 15 ou 20 titres en stock et vous avez crémé ou il n'y a que ce qui a été composé?
Il n'y a que ce qui a été écrit.
D'accord. C'est vrai qu'on a... Vous n'avez pas des montagnes de titres en archive?
Pas un seul.
Tu as peut-être des idées que tu as déjà.
Ouais, c'est ça, des petites idées qui sont après ou pas, mais il n'y a pas de, y a aucun morceau complet terminé qu'on n'a pas pris.
D'accord.
On n'a jamais fonctionné comme ça.
D'accord. Comment vous intégrez le côté folk? Parce qu'il y a des groupes qui... C'est pas le cas du coup ici, mais il y a des groupes qui se disent qui à bout d'un moment c'était hype de faire folk et donc ils farcissaient leur truc de folk et ça faisait un peu de violon ou de cornemuse et ça faisait un peu artificiel. Vous, comment ça s'intègre dans vos processus de compo?
Nous ça s'intègre pas seulement au niveau des instruments, c'est-à-dire qu'on a quelques morceaux où on a de la flûte, on a du lienpai, de la cornemuse et de la lobisol, mais là sinon ça se met vraiment sur la composition même du morceau. C'est-à-dire qu'on a des morceaux qui vont sonner celtique mais où il n'y a pas d'instrument folk, c'est juste que la mélodie ou la composition en elle-même va avoir des mélodies folk par exemple. Mais je pense à The Call qui est sur le premier album avec un thème justement très folk, mais c'est la guitare qui est folk. Donc c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à mettre des instruments pour mettre du folk, on essaye, ça se fait naturellement, on essaie de faire des morceaux folk en fait, pas que folk, mais d'apporter cette touche là.
C'est tout du son, les instruments traditionnels, parce que c'est un coup d'avoir un mec qui joue du je sais pas quoi, enfin voilà.
Donc, alors,
vous arrivez à une qualité qui est plus que appréciable par des samples ou...
Non, alors tout ce qui est orchestre c'est du sample. Après la cornemuse, donc alors la cornemuse irlandaise, non la cornemuse normale, c'est Romain Guillaudin, c'est un ami de Bourgogne qui est venu en faire.
D'accord.
Et pour la low whistle, la flûte et le... Et pour le lienpai, donc cornemuse irlandaise, c'est Thierry Lambert qui est venu enregistrer.
Ah donc c'est des... Voilà, c'est votre réseau vous...
C'est un ami et mon père. Donc
d'accord.
Du coup...
En réseau assez proche.
En réseau assez proche.
C'est un réseau familial aussi.
Donc, c'est un réseau, ouais.
C'est ça, du coup, on n'a pas payé de personnes professionnelles qu'on ne connaissait pas et qui sont venues pour ça. On a vraiment fait ça avec les proches et... Ça aurait été dommage de ne pas en profiter.
Absolument. Finalement, l'album il est sorti il y a quoi? Il y a quelques mois?
Il y a 3 mois, il est sorti le 30 janvier 2016 précisément.
C'est ça. Alors est-ce que vous... vous faites de la promo, mais donc on pourrait dire c'est la meilleure chanson qu'on ait jamais faite, etc. Mais souvent il y a deux options quand un artiste réécoute des titres ou un album ou revient un peu en arrière, il a deux options. Soit il est toujours très satisfait et voilà. Soit il écoute que les trucs qu'il aurait dû faire différemment ou les machins qui lui arrachent un peu l'oreille, même s'il comme un des mortels, il l'écoute pas. Voilà, quel est un peu votre état d'esprit 3 mois après la sortie, donc encore plus de temps avant l'enregistrement, etc.
Alors tout de suite, là on a du recul sur l'EP, sur le premier album, mais d'avoir du recul sur le deuxième, pour l'instant c'est encore très compliqué. Je sais que j'ai pas encore trop revu.
Vous avez, là, vous avez fait, j'ai vu sur Facebook, vous avez fait récemment un festival. Vous avez fait une release party.
Ouais.
Donc, vous avez déjà vu des trucs qui marchent pas. Des...
En général, en concert, je pense que tout marche à peu près. Après, moi, sur le CD, il y a peut-être 2-3 trucs, des fois, je retiens où j'ai pas joué comme j'aurais voulu, ou des trucs auxquels on n'a pas vraiment fait gaffe au mix, enfin, qui sont passés à travers toutes les étapes de réglage du mix où on a essayé de régler tout ce qu'il fallait corriger. Mais je pense qu'en concert, ça reste assez efficace. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait de choses qui marchent pas.
Après, moi,
c'est mon ressenti.
Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai une vision vraiment différente. C'est-à-dire que pour moi, un album, c'est un moment donné, un moment clé. Avec quand on a déjà eu la discussion par rapport à l'EP, par exemple, on a fait un EP 5 titres avec les moyens du bord, clairement avec les moyens du bord. Mais ça a été un moment donné, ça a été un moment, voilà, une période donnée du groupe où on était à ce niveau-là. Le premier album, du coup, il y a des choses à revoir, il y a des choses à améliorer, il y a tout ça, mais ça a été un moment donné. Donc, je parlerai pas de frustration ou de choses comme ça. C'est justement si j'aurais plus tendance, s'il y a des choses qui me plaisent pas dans le deuxième album, je me dis bah voilà, sur le troisième, faudra partir là-dedans. Je suis plus dans l'après, dans comment faire avancer les choses que dans le regret, en fait.
D'accord. Imaginons, là, demain, vous jouez au loto et vous avez une certaine somme d'argent à disposition. Sur quoi vous investiriez en particulier ?
On arrête la musique.
D'accord.
Non, je sais pas.
Un million, un truc. Je sais pas, vous avez 5 000 euros.
Je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être
intéressant. Il y a un truc qui vous a frustré ou pas frustré, mais de dire dommage, on est obligé de faire à l'économie, parce que on n'est pas non plus Metallica. Quoi.
Peut-être choper du matos ou essayer de se trouver de quoi tourner, un camion, une place sono pour pouvoir se gérer nous-mêmes en tant que quand on se déplace, avoir direct le matos sono avec nous. Je sais pas. Ça fait partie des trucs qui seraient intéressants à avoir. Après, en profiter pour financer le prochain album, du merch,
oui, déjà,
celui-là.
Vous êtes des mythos, les mecs. Vous achèteriez des putes.
c'est Loris. Pas tendre le micro vers lui.
C'est Loris, les putes.
Pas tendre dormir.
Non, okay, le financement du prochain album.
Ouais, ouais, je pense que le principal, c'est ça. Ou du merch pour celui-là, genre t-shirt.
Avoir encore moins de limites pour le budget du troisième et se dire yeah, on veut ça, on a ça.
D'accord.
Alors, comment vous avez travaillé la pochette ?
Alors, la pochette,
est-ce que c'est le même artiste que pour le premier ?
Ouais, c'est Alexandre Chaigne, c'est le même gars qui avait travaillé sur le premier album. On a vraiment travaillé de la même manière. En fait, tout ce qui est histoire, en fait, on voit ça, on fait ça avec Loris. Et du coup, le but sur cette pochette, c'était voilà, comme on a vraiment fait de la même méthode, de la même manière qu'avec le premier, on prend en fait une sorte de moment flash avec plein de petites choses qui se passent dans toute l'histoire, parce que l'album raconte une histoire, que ce soit du coup les boules de feu, que ce soit la montagne dans laquelle se cache le fameux Mother Fire Drake, le village en feu, le dragon, c'est vraiment plein de moments clés, plein de moments différents de l'histoire, et du coup
de regrouper
tout ça sur l'artwork.
Et c'est donc vous lui donnez un texte très détaillé de ce que vous voulez voir, il fait une proposition et vous dit ça, il y a un jeu de ping-pong d'aller-retour entre lui et vous.
Complètement.
Ou vous le laissez très libre, enfin vous le drivez quoi.
Bah en fait on lui envoie un petit dessin très bien fait au crayon, absolument dégueulasse, avec nos talents de dessinateur, enfin voilà, vraiment des brouillons en lui expliquant ce qu'on veut et ce qu'on imagine. Et après lui il met sa touche à dessus. Et après il y a ce jeu de ping-pong.
C'est la musique et paroles ou on s'en fout ?
De quoi ?
Vous lui fournissez musique et paroles ou c'est
fait ? Ah non, ni l'un ni l'autre.
Ah d'accord.
Non, c'est juste sur le visuel.
D'accord, d'accord.
On lui explique un peu l'histoire justement pour que lui puisse adapter à ce que lui va imaginer. Mais on lui donne surtout un rendu visuel.
D'accord. Vous le proposez en digipack ou en boîtier cristal ?
Cristal.
La version, oui. JPAC
Non, on n'a pas fait.
Mais parce que.
On s'est pas encore posé la question. C'est toujours pareil, c'est une question de moyens. On a préféré le mettre ailleurs. On a des t-shirts, on a ce genre de petites choses. On a des magnifiques stickers. Enfin, tu vois, des petits trucs.
Ah, super.
Non, mais Digipack, c'est pas une question qu'on fait poser trop pour l'instant.
Ok. Toujours dans le domaine visuel, vous avez récemment publié un premier clip pour l'album Off to Go Astray. En général, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est un exercice finalement agréable, même si on fait 250 fois les mêmes trucs ? Et surtout en comparaison avec The Call, que vous aviez déjà fait pour le précédent.
Alors il a été beaucoup plus préparé, déjà. Il a été beaucoup plus préparé, beaucoup plus travaillé, on a été beaucoup plus entouré. que ce soit pour vraiment pour tout. On avait,
Parce que le risque c'est toujours de faire même avec des moyens, les premiers Rhapsody qui sont catastrophiques, ça faisait on se savait qu'il y avait de la thune, quoi. C'est ça qui était pire.
Non, là on a vraiment essayé de faire un truc, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que Rhapsody, il y a quand même les clichés, vraiment nos clichés au niveau des clips, quoi. On a vraiment essayé de
Le côté surtout là sur Earth Go Astray où il y a une partie, on voit le groupe, et il y a une partie où il y a une histoire, des mecs habillés genre Game of Thrones, il y a toujours le risque qu'on passe du. Il y a une limite très réduite entre le sympa et le ridicule.
Complètement. Mais cette limite, en fait, on l'a en ligne de mire depuis le début du groupe. C'est-à-dire qu'encore une fois, on fait une musique qui est née dans les années 80, qui parle de dragons, de chevaliers et tout ça. Donc on sait qu'on n'est pas loin du cliché. On assume, on a vraiment ce qu'on fait, tout en gardant en ligne de vue le moment où il ne faut pas aller au-delà de la ligne du mauvais goût. Donc ça, par exemple, on n'a pas de peau de bête sur scène. C'est pour ça que on a pas, dans le clip, on n'a pas de solo de guitare sur une pierre à regarder le ciel. On sait qu'on est dans le cliché, donc on fait attention à rester sur la ligne et à surtout pas la dépasser. Donc c'est pour ça qu'on a sur les scènes de visuel, on a pris le parti justement de ne pas avoir de vraies batailles ou des choses comme ça, parce que clairement on n'a pas le budget pour ce genre de choses. Donc plutôt que faire un truc qui paraisse cheap, le but ça a vraiment été de faire de la qualité avec ce qu'on pouvait faire.
Ça a été combien de temps de tournage? Ça a été
un jour et demi même. Mais ça a été ultra intense. Alors toutes les scènes alors en gros le vendredi soir on était donc à Rouen dans une cave pour les scènes de groupe pour les scènes d'échecs, pour la scène d'échecs où on a justement l'humain et le matin à 9h on était à l'abbaye du Valas toujours entre le Havre et Rouen, tout s'est fait en Normandie, et le soir on revenait à Rouen pour faire les scènes de groupe. Donc en tout ça a duré 24h mais quasiment non-stop, donc ça a été une grosse aventure.
Donc à côté, c'est amusant ou c'est galère?
Les deux. Forcément, c'est super sympa de faire ça, mais au bout d'une journée.
C'est sympa quand on voit le résultat, mais quand c'est en tanké pour la 12e fois, alors fait le même machin.
C'est les deux. On est dans un
entendu avec personne
qui avait aussi envie de nous aider à le faire et qui nous boostait, qui nous mettait des coups de pompe au cul quand on en avait main pour dire les gars,
faut y aller là.
Mais en nous mitonnant aussi à chaque fois, c'est la dernière. Non, mais voilà, ça s'est fait dans une super ambiance surtout. Et même si à un moment donné, il faut être réaliste, on en avait marre de leur faire 50 000 fois la même prise. On avait envie de le faire bien.
Mais c'est super plaisant. Par exemple, toutes les scènes en extérieur, nous on faisait rien, on était juste à regarder les figurants. Et justement, voir tous les gens, autant le premier on était très peu, parce que sur celui-là on était une quinzaine de personnes. Enfin, voir justement tous les gens qui sont là pour nous aider dans notre projet et tout.
C'est les figurants, super. C'est ton cousin, ta soeur, ton frère.
Dans l'idée, c'est.
Alors,
c'est
parents sur 12 générations.
C'est pas jusque-là, mais c'est des amis, c'est des gens qui font des gens qui font un peu de jeu de rôle, des gens qui font du son et lumière, enfin des figurants.
Là aussi c'est du péjoratif, mais on se débrouille complètement.
Avec les contacts qu'on a et on se débrouille avec ça.
D'accord. Deux petites questions pour terminer, après j'ai un petit quiz habituel. Quels sont vos espoirs à court et moyen terme pour le groupe? Pas espoir ou attente ou projet quoi.
Là l'idée c'est vraiment de jouer au maximum partout en France et au-delà, mais en tout cas voilà, essayer de jouer au maximum, sortir de la Normandie, jouer le plus possible et présenter notre musique partout.
Et il y a des pistes face à...
On est en train de travailler dessus, là on travaille sur quelques trucs un peu à gauche, mais là c'est vraiment en cours de recherche, de contact.
D'accord. Et l'autre question c'est comment on voit la scène métal française depuis la Normandie?
Très dynamique, mais c'est compliqué, c'est toujours super compliqué de jouer, de faire venir les gens.
Par exemple, à Rouen, il y a une scène qui bouge ou...
Il y a une scène underground, mais qui est très underground. Mais qui reste très dynamique, c'est-à-dire qu'il y a toujours du monde.
Dans les listes de concerts qu'on peut voir dans un magazine, Rouen n'a pas l'air une destination.
Alors ça commence à changer, parce que du coup on a une salle régionale depuis 4-5 ans, le 106, où il y avait Soulfly l'année dernière, il y avait Spiritual Bigard la semaine dernière, cette petite flèche. On a une grosse salle en fait on a une grosse salle qui concurrence Paris, enfin qui concurrence où viennent des groupes que d'habitude on serait obligé de venir à Paris pour voir. Donc ça c'est vraiment
Après, ça permet pas forcément aux jeunes groupes qui débutent de jouer, mais il y a quand même des
mais ça dynamise la scène quelque part.
Ouais, et ça ne sert pas de rocker le en première partie. Souvent, ils viennent avec leur première partie, c'est un paquet, ça qui rigole.
C'est très compliqué.
Quand c'est des grosses tournées américaines ou européennes, forcément, les mecs, ils ont déjà tout prêt, tu peux pas tenter comme ça.
C'est très bouché malgré tout sur ces grosses scènes.
D'accord. Bon, on a un petit quiz pour terminer, pour mieux vous connaître.
Ça marche.
Alors, c'est rien de. C'est juste vous connaître. Hein. C'est justement, il n'y a rien de. C'est pas quel est le troisième chanteur de je sais pas quoi. La chanson préférée de tous les temps.
C'est dur.
Jusqu'à album préféré si vraiment une chanson c'est. Je peux aller jusqu'à album préféré si vraiment il y a une chanson c'est compliqué.
De quoi on
va bah, les uns après les autres, vous voulez.
Je te dirais Dawn of Victory de Rhapsody, c'est une qui m'a vraiment marqué.
Cowboys from Hell de Pantera. Non, j'ai pas pris. Mais je cherche le nom de l'album, je trouve pas. Moi je dirais The Great Mass, je crois que c'est The Great Mass, de Celtic Flesh.
Moi je dirais Sin from a Memory de Dream Theater.
Votre premier album rock acheté.
Premier album
rock acheté. Ou pas rock, hein, ça peut être.
Qu'est-ce que le rock
mon partenaire particulier, j'en sais rien, enfin moi c'était moi, mais bon, ouais.
Rock, moi je dirais Dire Straits Communicate.
Moi quand j'étais petit, mon père il avait eu Surfing with Alien de Josephine en double et il m'avait filé un de ses CD. D'accord, j'ai commencé par ça, c'est vraiment mon début.
Moi je crois que c'était Axel Bauer. Mais ce qui m'a. Non mais ouais.
Retiens ça.
Mais non, non.
Ça sera charcuté,
c'est sûr. Non mais même pas. Non, mais... Enfin, ça a vraiment... Il n'y a pas un album, ça a été une succession qui m'a fait amener vers autre chose, qui m'a amené vers autre chose. Du coup, non, bah, c'était Axel Bauer.
C'est le premier album que t'as acheté.
Rock ou pas rock, même ça peut être. C'est pas ton casserole.
Je dirais Red Jacket the Machine, l'album éponyme.
D'accord. Le dernier qui vous a accroché l'oreille.
Là, je suis en train d'écouter. Là, j'ai acheté récemment Two Steps From Hell, c'est le nom de l'album Skyward, c'est un truc de musique de film.
Bon, en ce moment, j'écoute le dernier Fresh God Apocalypse. Sinon, je suis sur Bogo Penguin, c'est un petit groupe de jazz anglais. Et ça change un peu.
Moi, les deux derniers, en gros, c'est le dernier Dream et le dernier Muse aussi.
Quand le dernier Dream, il faut se faire déjà il est double.
Ah ouais, mais il est mortel.
Et pour moi, ce serait un groupe québécois qui s'appelle Les Trois Accords. L'album s'appelle Joie d'être gay.
Alors, le titre de Hopes of Freedom que vous aimez le moins.
Il y en a pas.
Through the Winds and the Rain.
Il y en a qu'on aime moins jouer, mais
ouais, je crois que c'est celui que j'aime le moins.
Enfin voilà, que j'aime pas, c'est dire celui que bon, s'il n'existait pas, c'est pas grave.
Warfire, j'en ai marre de Warfire.
Master of the World.
Non. Si. Oh, Tokyo.
Je dirais. Sur ce, c'est rien. Je dirais Warfire aussi.
On a marre de jouer, et après, elle est bien. Mais
d'accord.
C'est vraiment
La chanson que vous auriez adoré avoir composée. À chaque fois, vous êtes.
La dernière bande originale de Dorcel. C'est pas ça du tout.
Non, mais je l'ai composée.
Ouais, mais oui, mais.
Chanson que j'adorerais avoir composée.
Je vous conseille un tube, hein, vous aurez gagné du fric en passant.
Mais c'est ça.
Prenez Thriller, Michael Jackson.
Ouais, moi j'aurais dit Rosanna de Toto. Ça a été joué par les mêmes mecs, mais voilà.
Franchement, j'ai pas d'idée. Je suis pas spécialement doué pour la compo, alors arriver d'avoir composé un truc, je pense que c'est pas.
Ça ou Life on Mars aussi, bah oui.
D'accord. Oui, non, d'accord. Non, il n'y a rien de particulier.
Non, pas bah, tellement. En fait. D'accord, c'est ça, il y a tellement de morceaux, mais.
On va faire les deux dernières. Vous avez le choix d'un guest, d'un invité qui est mort ou vivant pour le prochain, vous prenez qui?
John Petrucci.
J'aurais dû Bruce Dickinson, mais je vais être obligé d'arrêter le chant. Non, Fabio Lyonnais, chanteur de Rhapsody.
Ah mais il y en a plein en fait, hein. Je vais te toucher, mais ça pourrait être Luke Heather, ça pourrait être...
Vas-y, je sais ce qu'il va dire.
Henri Dess.
Henri Dess Metal.
Et puis, la dernière, est-ce que votre album préféré l'année dernière, enfin votre album 2015.
Qu'est-ce qui est sorti en 2015? C'est vrai.
Je dirais le dernier Ghost.
Il y aura, d'accord.
Mais genre 7 secondes après.
Moi j'ai rêvé de Rose de Milton.
Je regarde si j'ai la date.
Alors,
je connais pas la date de tout.
Mais en fait, on aurait
ah merde, c'est 2013. Moi je sais pas. C'est 2015, non? Est-ce que j'ai écouté en 2015?
Il y a longtemps.
Mais non, mais c'est surtout que j'écoute des trucs, je sais pas en quelle année c'est sorti.
D'accord.
Je saurais, franchement, je saurais pas te dire ce qu'est en 2015 que je l'ai utilisé.
Dans deux heures, je vais dire, merde, j'aurais dû répondre.
Voilà, c'est pas grave.
On t'enverra un message.
Ok, bah merci à vous.